Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, avec le journal dans quelques secondes, 19h15, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson, coup de griffe ce soir contre la cérémonie des Césars, il nous dira pourquoi. 19h20, le grand débat du Club des idées, les Français et l'épargne. Pourquoi sommes-nous des éternelles fourmis? Le taux d'épargne atteint aujourd'hui des records en France, plus de 200 milliards d'euros, et visiblement le gouvernement cherche des solutions pour nous faire dépenser plus. Alors faut-il taxer l'épargne, favoriser les donations, baisser la TVA, on en parlera avec nos invités, on répondra comme on le fait souvent à vos questions. N'hésitez pas, le standard est ouvert. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
La décision qui a été prise, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca.
Quand le maître des horloges, Emmanuel Macron, invoque le maître du temps, le virus, le chef de l'État décide de suspendre la vaccination avec AstraZeneca en France jusqu'à la décision jeudi de l'Agence européenne du médicament.
Et on sera à Bruxelles dès le début de ce journal. C'est au niveau européen que tout va se jouer.
À Marseille, l'ancien baron de la gauche, Jean-Noël Guérini, et son frère actuellement devant la justice.
Au sommaire également, la course aux armements. Les exportations d'armes se portent bien, nous dira Didier François.
Et puis un tableau de Gustav Klimt, bientôt rendu aux descendants de ses anciens propriétaire, une famille juive autrichienne spoliée par les nazis.
Des nuages et de la fraîcheur au programme demain matin, ma chère Anissa.
Oui, le temps sera lumineux uniquement au bord de la Méditerranée. Ailleurs, le temps s'annonce très couvert demain avec même pas mal d'averses et toujours des chutes de neige à l'est et dans le massif central. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Changement de ton donc en moins de 24 heures au sein de l'exécutif. Hier soir, Jean Castex se voulait encore rassurant quant au vaccin AstraZeneca. Et donc cet après-midi, Emmanuel Macron décide d'en suspendre l'utilisation.
Oui, annonce faite par le président quelques minutes seulement après que l'Allemagne ait fait part d'une décision similaire.
Isabelle Horry, en vous retrouvant en direct de Bruxelles, vous êtes notre correspondante. Isabelle, toute l'Europe est désormais suspendue à cet avis de l'Agence européenne du médicament qui est attendu pour jeudi.
Oui, à l'issue d'une réunion extraordinaire de son comité de sécurité. D'ici là, les experts de l'agence vont examiner en détail tous les cas suspects. Ce soir, dans un communiqué, l'agence précise qu'elle continue de penser que les avantages du vaccin sont supérieurs aux risques. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait cet après-midi encore l'un de ses membres au Parlement européen. Marco Cavalleri dirige la Task Force Covid-19.
À ce stade, nous ne pensons pas que les preuves que nous avons collectées montrent vraiment l'émergence d'un nouveau risque. Le rapport bénéfice-risque du vaccin AstraZeneca est toujours considéré comme positif. Nous ne voyons pas de problème à continuer les campagnes de vaccination. En même temps, nous continuons à examiner toutes les données, particulièrement les cas mortels, pour essayer de comprendre s'il y a plusieurs cas liés à une même pathologie ou aux mêmes antécédents médicaux et pour affiner notre évaluation.
L'agence du médicament précise qu'elle dispose aussi des données fournies par l'autorité de santé britannique, des données sur 11 millions de vaccinés. Et elle rappelle qu'à ce stade, le nombre de thromboses parmi les vaccinés ne lui semble pas plus élevé que dans la population normale. Reste que ce soir, l'Espagne et l'Italie ont emboîté le pas à la France et l'Allemagne et suspendu à leur tour la vaccination.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et ce soir, l'OMS affirme que les pays devraient continuer à vacciner avec AstraZeneca.
Alors comment réagissent en France les professionnels de santé à cette annonce choc? Écoutez Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération de médecins de France, et bien lui, il a du mal à comprendre cette décision.
Le bénéfice risque est totalement en faveur du vaccin. Bon, on va pas faire de statistiques avec les 200 personnes qu'on a vaccinées dans notre cabinet, mais on n'a eu strictement aucun ennui. Alors, c'est vrai que bon, n'importe quelle personne de tout âge peut faire des troubles du rythme sévères, que ce soit avant ou après une vaccination ou sans vaccination du tout. Je pense que ça, l'agence européenne va décider de continuer à vacciner. Ça évite des formes graves, ça évite les Covid longs, et incontestablement, il faut continuer à vacciner.
Jean-Paul Hamon, le président d'honneur de la Fédération de médecins de France, joint pour Europe 1 par Damien Mestre. Concernant maintenant un autre sujet de préoccupation, va-t-on être reconfiné? Emmanuel Macron est resté assez vague cet après-midi, affirmant simplement qu'il y aura des décisions à prendre dans les prochains jours. Et ce, alors que la situation reste extrêmement préoccupante dans les hôpitaux de la région Île-de-France en particulier. On est à 1152 patients en réanimation, soit plus qu'au pic de la deuxième vague en novembre. Les évacuations de patients vont se poursuivre.
Direction Marseille à présent, où s'est ouvert ce lundi le procès du système Guérini.
L'ancien baron du Parti Socialiste, Jean-Noël Guérini, et son frère Alexandre, accusés d'avoir dirigé un système clientéliste. Procès qui intervient après 12 ans d'enquête, vaste dossier de corruption présumée dans le traitement des déchets.
Stéphane Frangy, vous avez suivi cette première journée pour nous, première prise de parole. Jean-Noël Guérini s'est donc exprimé pour la première fois.
Et là, Jean-Noël Guérini, taiseux depuis ce matin, retrouve tout d'un coup de la consistance, fier de sa réélection aux dernières sénatoriales. Trajectoire en contraste total avec celle de son ancien directeur de cabinet qui s'est dit pour sa part marqué par le saut de cette affaire et les difficultés énormes pour retrouver un emploi. Jean-Noël Guérini lui parle assez longuement et conclut « Toute ma vie, j'ai été d'une droiture exemplaire ». Mais un détail interpelle un des magistrats. Vous nous parlez de votre famille, mais jamais de votre frère. Alexandre est pourtant assis à un mètre de lui sur le banc des accusés. Et effectivement, les deux hommes n'ont pas échangé le moindre regard depuis le début de la journée. Et là, Jean-Noël Guérini le concède. Oui, ses relations avec Alexandre sont rompues depuis quelques années. Alors, pour quelle raison l'accusation ne devrait pas se priver de lui poser la question dès qu'elle en aura l'occasion?
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
Europe 1, Julien Bugier.
19h05, restez avec nous dans quelques secondes. Didier François nous parlera des exportations d'armes qui montrent que le climat ambiant n'est pas franchement serein.
Et puis on vous racontera l'histoire de ce tableau de Gustav Klimt volé à une famille juive par les nazis.
A tout de suite. Oui, 19h07, la suite du journal avec d'abord cette dernière minute. C'est confirmé, le retour de la prime Macron défiscalisée pour les salariés de la seconde ligne. Vous savez, tous ces salariés, ils sont plus de 4 millions, notamment les éboueurs, les livreurs, tous les salariés qui ont été en seconde ligne, évidemment, pendant la période du confinement. Eh bien, ils pourront bénéficier, si l'entreprise en est d'accord, d'une prime de 1 000 euros qui pourra d'ailleurs, nous dit le Premier ministre Jean Castex, aller jusqu'à 2 000 euros. C'est une information importante. Cela va maintenant faire plus de 5 ans que les ventes d'armes restent stables à l'échelle mondiale. Constat plutôt rassurant du rapport publié ce matin par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le SIPRI, le CIPRI, qui est vraiment la référence en matière de suivi des exportations de matériel militaire.
Et on en parle ce soir, bien sûr, avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François, comme tous les soirs. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors effectivement, on peut voir le bon côté des choses, hein, mais ce que vous nous dites, c'est que ces chiffres, qui apparaissent plutôt bons au premier abord, eh bien, ils cachent en fait une réalité plus nuancée.
Effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le CIPRI ne décèle pas une brutale augmentation des ventes d'armes à l'échelle de la planète, ce qui serait l'indicateur d'une montée rapide vers une crise majeure, donc pas d'emballement. En revanche, lorsqu'on regarde les chiffres dans le détail, ben c'est pas aussi réjouissant que ça, parce que, en tout cas du point de vue stratégique, parce que la moyenne annuelle des achats de matériel militaire reste extrêmement élevée sur cette même période de 5 ans. En fait, les exportations d'armes se sont stabilisées à un niveau record, puisqu'on est sur un rythme de renforcement ou de modernisation des arsenaux qui est le plus élevé depuis la fin de la guerre froide. Ce qui veut dire deux choses. D'abord, que la course aux armements est une réalité. Elle n'est pas encore dans son sprint final, mais c'est bien une course de fond, ce qui d'ailleurs est totalement cohérent avec l'augmentation générale des budgets de la défense qu'on observe partout dans le monde. Et puis, ça prouve également, c'est le second enseignement, que tous les États constatent ou anticipent un durcissement des relations internationales qui pourrait les mener jusqu'au conflit.
Avec quand même de fortes disparités régionales.
Absolument, c'est particulièrement vrai en Asie, où face à une politique chinoise de plus en plus agressive, des pays comme Taïwan, le Japon, 112%, où la Corée du Sud fournissent un effort considérable pour moderniser leurs armées. Ça touche également le Proche-Orient, où Israël et les monarchies du Golfe s'inquiètent de l'expansion iranienne, la Méditerranée orientale, où les États riverains doivent prendre en compte l'affirmation très brutale des ambitions de la Turquie, puis évidemment tous les voisins de la Russie qui ont été plus qu'échaudés par l'annexion de la Crimée. Ça fait beaucoup de zones de friction. Des débouchés aussi pour l'industrie française d'armement, qui a renforcé sa place de troisième exportateur mondial, 8,2% du marché derrière les États-Unis, qui sont à 37%, et la Russie à 20%.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Et puis on vous lisait dans les titres, la France va restituer à une famille juive un tableau de Gustav Klimt dont elle avait été spoliée par les nazis. Et c'est une histoire assez incroyable, Angèle Châtelier, car le musée d'Orsay avait acquis ce tableau sans en connaître le passé et l'histoire.
Oui, l'Autrichien Gustav Klimt a peint cette toile au début du XXe siècle, puis elle a été achetée 6 ans plus tard par un collectionneur juif, Victor Zuckerland, et après sa mort, Elle est restée dans sa famille, jusqu'à ce que les nazis s'en emparent en 1938. Sa nièce, Nora Stiassny, fut contrainte de la vendre avant d'être déportée et assassinée. C'est en 1980 que l'État se l'est procurée pour l'exposer au musée d'Orsay. Et c'est grâce à la recherche que son histoire a pu être reconstituée, ce qui a amené ses ayants droit à demander une restitution. Cette œuvre est aujourd'hui un témoin de ses vies brisées, ce qu'a clamé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, devant le tableau cet après-midi.
Rosier sous les arbres est une peinture. Elle ne peut pas nous parler. Et pourtant, elle porte en elle, pour toujours, ses destins tragiques, ses vies brisées. Elle est le dernier témoin de ces femmes et de ces hommes qu'une volonté criminelle et implacable a obstinément cherché à faire disparaître.
Cette restitution est un accomplissement de notre devoir face à l'histoire, a ajouté Laurence Descartes, présidente du musée d'Orsay. Alors aux yeux de la loi, pour l'instant, le tableau ne peut être cédé puisqu'il appartient aux collections nationales. Mais la ministre a promis qu'elle présenterait dès que possible un projet de loi pour que les ayants droit de ce rosier sous les arbres puissent de l'avoir de nouveau entre les mains.
Merci Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. On vous retrouve demain, même lieu, même heure évidemment dans Europe Soir. La météo, Anissa Dadi, de la neige encore demain. À peine incroyable,
il a
de la
neigé.
Neige mi-mars.
Il a beaucoup neigé aujourd'hui dans l'Est et ça va continuer demain sur les Alpes du Nord, les Vosges et le Jura. D'ailleurs, sachez qu'on attend près de 60 cm de neige fraîche à partir de 1000 mètres d'altitude, ce qui n'est pas très haut. Alors demain, dès le début de la journée, il neige à partir de 500 mètres avec un risque d'avalanche assez important sur les Alpes du Nord. Dans les Pyrénées et le Massif central, là, les flocons tombent dès 1000 mètres et tout au long de la journée. La journée sera nuageuse demain sur une grande partie du pays. Sur la moitié nord, nous aurons des averses tout au long de la journée. En Bretagne et dans le Cotentin, bonne nouvelle, les éclaircies reviennent demain après-midi. Et puis au bord de la Méditerranée, c'est là que la journée sera la plus belle, du Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur. Grand et franc soleil dans un ciel sans nuages. Pourquoi ? Parce que le Mistral et la Tramontane soufflent fort. Du coup, ils chassent les nuages, mais attention, ça souffle jusqu'à 90 km/h. Les températures, elles sont fraîches. Demain matin, avec 0 à 10 degrés, nous aurons 0 degrés à Aurillac, 1 pour Châteauroux, 2 à Bourges et Besançon, 3 à Lille, 5 à Paris, Nantes et Bordeaux, 7 degrés pour Toulouse et 10 à Perpignan. Demain après-midi, comptez 6 à 17 degrés, donc c'est frais le matin et plutôt stationnaire l'après-midi.
Bien, merci Anissa, on vous retrouve également demain à partir évidemment de 18h. 19h13, dans quelques secondes, le Club des idées, le débat, l'épargne des Français ce soir, on en parlera avec nos invités et vos questions. D'abord la carte blanche, signée comme tous les lundis de l'écrivain Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un
c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir mon cher Philippe.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, pour votre carte blanche, c'est un coup de griffe. Coup de griffe contre la 46e cérémonie des Césars. Moi qui pensais que vous aviez l'esprit de transgression, eh bien c'est raté, vous n'avez pas été emballé.
Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors déjà, avant la cérémonie, on pouvait se demander s'il était réellement utile de la maintenir. En effet, les salles ont été fermées près de 6 mois, elles le sont toujours. De nombreux films n'ont pas pu sortir, beaucoup de ceux qui ont été montrés n'ont pas eu le temps de convaincre. Par ailleurs, la crise sanitaire empêchant les rassemblements, on voyait mal comment célébrer ce qu'on appelle la grande famille du cinéma, si la famille devait être absente, et ben après la cérémonie, non seulement nos craintes n'ont pas été levées, mais on doit constater qu'on aurait préféré s'épargner ce spectacle pénible.
Qu'est-ce qui ne vous a pas plu, Philippe ?
Oh ben à peu près tout. Hein ? Alors, c'est clair. Donc, d'abord, il y a tout ce qui touche à la cérémonie elle-même, Covid ou pas. Il s'agit quand même, au mieux, d'une remise de médaille, au pire, d'un pot de fin d'année, qui, à la différence de ceux d'une compagnie d'assurance ou d'une ancienne de bricolage, a droit à des robes longues et à une diffusion à la télé. C'est quand même, par ailleurs, aussi le lieu de l'entre-soi, où des gens de cinéma félicitent des gens de cinéma, où on s'autocongratule. C'est enfin, en général, un grand moment d'hypocrisie, parce qu'on sait bien que la connivence surjouée cache mal des antipathies larvées, et que les sourires forcés masquent difficilement la déception de 80% des nommés de ne pas avoir remporté la timbale. Le cru de cette année n'y a pas dérogé, il a simplement été pire.
Je pourrais vous dire que c'est pareil pour les prix littéraires.
Absolument, mais j'en pense le plus grand mal aussi. Hein.
Ah bon, ben ça sera l'objet d'une prochaine, d'une prochaine chronique. Alors pourtant, la cérémonie était animée par Marina Foïs, grande actrice. Vous n'avez pas aimé ?
Pas du tout. Alors j'aime bien Marina Foïs, hein, mais enfin, on a quand même eu droit à une succession de blagues pas drôles et de sketchs franchement ratés. Quand on songe qu'ils se mettent à 10 autour d'une table pendant des semaines pour les concocter, ça laisse songeur. De même, sur le papier, faire venir un orchestre sur scène et le confier au classieux Benjamin Biolay, ça semblait une idée épatante. À la fin, ça donnait un peu l'impression d'être sur le Titanic. Au fond, les seuls, je dis bien les seuls qui nous ont touchés emballer, montrer de quoi le cinéma est capable, eh ben ce sont les disparus de l'année écoulée, je pense, par exemple, à Bacri ou à Piccoli.
Et pas Fanny Ardant, par exemple.
Ah, elle était formidable.
Bien. Ah, vous voyez,
oui,
la
c'est
cérémonie
vrai,
a permis néanmoins aux cinéastes, aux acteurs, aux techniciens d'exprimer leurs inquiétudes et même leur colère face à cette crise qu'ils traversent. Et c'est plutôt une bonne chose, ça.
Ben oui et non. D'abord, nous ne sommes pas idiots. Nous sommes des spectateurs frustrés, déçus, furieux de ne pas pouvoir nous divertir ou être émus dans les salles obscures. Donc nous avons bien compris la situation. Ensuite, l'enchaînement de prises de parole revendicatives a plus d'une fois donné l'impression d'être dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, mais enfin, la ferveur en moins. Et si le gouvernement a non sans raison été vilipendé, personne en revanche, personne n'a jugé utile de rappeler que le cinéma français est un de ceux qui sont le plus accompagnés par la puissance publique, par l'argent public. On pense notamment au régime des intermittents du spectacle, aux aides accordées par les régions, au soutien apporté par les chaînes publiques elles-mêmes financées par la redevance ou au crédit d'impôt. Du reste, sur les réseaux sociaux, certains se sont agacés d'assister aux pleurnicheries d'enfants gâtés ou à des lamentations indécentes en temps de crise économique. Le clou du spectacle, ça a été évidemment le striptease de Corinne Maziero, mais c'était en l'occurrence le dernier clou dans le cercueil. La cause méritant tellement mieux que cette provocation dérisoire et embarrassante. Enfin, il y a une justice. La cérémonie a été un retentissant flop d'audience.
Eh bien, les lauréats vous ont fait plaisir ?
Certains d'entre eux, oui. Ces Césars auront tout de même été ceux de la diversité, avec le Sacre comme meilleur acteur de Samy Bouajila et celui comme meilleur espoir de Jean-Pascal Zadi et de Fatia Youssouf. Et le fait de récompenser Adolescente de Sébastien Lifshitz a démontré que le documentaire a définitivement acquis ses lettres de noblesse et que ça n'est pas un sous-genre. Je me réjouis aussi personnellement des 7 Césars d'Albert Dupontel, même si c'est pour un film consensuel. Et c'était peut-être ça le problème. Alors que les Américains, bien malgré eux, nous avaient laissé le champ libre cette année, nous autres Français, nous n'avons pas réussi à proposer de films majeurs, ni d'œuvres qui déchaînent les passions ou de prestations inoubliables. Souhaitons que, de ce point de vue-là aussi, tout aille mieux l'année prochaine.
Bien, merci mon cher Philippe Besson, vous me laissez sans voix. Je vous ai rarement connu aussi critique.
Je suis un peu agacé.
Voilà, c'est ce que j'observe. Merci Philippe.
Merci Julien.
À la semaine prochaine.
Europe 1, Julien Bugier.
19h17, vous restez avec nous dans quelques secondes. Le grand débat, on parlera de l'épargne des Français. Vous verrez que Bercy a peut-être trouvé quelques clés de solution pour tenter de nous faire dépenser cette épargne, pour relancer l'économie évidemment. À tout de suite. Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse donc à notre épargne. On n'a jamais vu autant d'argent dormir sur les comptes en banque. On estime à 200 milliards d'euros le surcroît d'épargne en France. Les Français ne consomment plus, ont peur aussi de l'avenir et donc mettent de l'argent de côté, c'est logique. Sauf que le gouvernement, lui, veut nous inciter à dépenser pour relancer l'économie. Alors comment les services de Bercy comptent-ils s'y prendre? Qui sont les Français qui ont le plus épargné et combien ça rapporte? On en parle avec nos invités. Bonsoir Anne-Laure Delatte.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, chercheuse au CNRS, rattachée à l'université à Dauphine. Bonsoir Philippe Revel. Vous
Bonsoir.
Êtes économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Vous connaissez bien le sujet, on va en parler avec vous de l'épargne des Français. Mathieu Plane est également avec nous. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. Alors, d'abord, Philippe Revel, qui sont d'abord les Français qui ont le plus épargné depuis un an ?
Alors, les épargnants, on les trouve évidemment parmi les Français qui gagnent le plus d'argent. Traditionnellement, ce sont les 20% les Français les plus aisés qui épargnent, avec ou sans Covid. Mmh. Donc, évidemment, pendant la période du Covid, c'est la même chose. Et ce sont les ménages qui vont au cinéma, qui vont au restaurant, qui partent en week-end. Mmh. Et de ce fait, avec l'épidémie, ces Français n'ont pas pu dépenser autant qu'auparavant.
Oui.
Donc, ils ont épargné davantage. Mais il faut dire que les Français, même modestes, ont mis de l'argent de côté par peur, par précaution. Et on voit, par exemple, sur le livret d'épargne populaire, un produit qui était en déshérence depuis 10 ans, on a eu une collecte positive l'année dernière. Et l'INSEE, dans sa dernière note de la semaine dernière, a bien indiqué que tous les Français avaient épargné. Mais c'est vrai. Alors, ce sont les 20% les plus riches qui ont mis de l'argent de côté, majoritairement.
Dans des volumes évidemment très très différents. Alors, vous avez évoqué le cinéma. Je ne suis pas sûr qu'on soit allé beaucoup au cinéma.
Justement, j'ai indiqué que...
Qui n'allaient pas au cinéma, qui n'ont pas dépensé leur ticket de cinéma. Je comprends, pardon. Les 25% des ménages les plus aisés, j'ai les chiffres de l'INSEE, ont épargné un peu plus de 10 000 euros sur l'ensemble de l'année écoulée. À l'inverse, les 25% des ménages dont le patrimoine est le plus faible ont mis de côté 218 euros l'an passé. Sacrée inégalité, Mathieu Plane, quand on parle d'épargne.
Oui, ça crée une égalité. En même temps, c'est pas une surprise. Hein. L'épargne est assez inégalitaire. Hein. C'est comme les patrimoines. Hein. On sait que tout en bas de l'échelle des revenus, les 25% les plus modestes n'ont quasiment pas de patrimoine, n'ont quasiment pas d'épargne. À l'inverse, l'épargne est beaucoup plus concentrée sur les revenus. Donc, vous arrivez comme ça à avoir une partie de la population où, en fait, la plupart de leurs dépenses sont des dépenses contraintes, c'est-à-dire le logement, l'alimentaire, un peu d'habillement, un peu de transport, etc. Où, finalement, il y a assez peu de résidus pour l'épargne. L'essentiel de la consommation, c'est quasiment de la consommation de première nécessité. À l'inverse, c'est ce qui a été dit, c'est que les plus hauts revenus, enfin, les 20% des plus hauts revenus, eux, ont une consommation de loisirs, de restauration, une consommation de vacances ou de déplacements qui est plus importante.
Alors, c'est cette épargne-là que veut aller chercher, évidemment, le gouvernement. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé à Nord-de-Latte. Hein. J'évoquais un surcroît de 200 milliards d'euros. C'est ça le volume, à peu près ?
Oui, c'est très important. Alors, effectivement, il y a une énorme concentration sur les 20%. On dit même que c'est 70% de l'épargne des Français qui a été concentrée sur un Français sur 5, vous voyez, le plus riche.
Mais plutôt assez plutôt âgé, j'allais dire retraité, pas forcément, mais âgé. Parce que je regardais les proportions par tranche d'âge, c'est vrai que l'épargne a grimpé de 5% par exemple pour les retraités, plus de 65 ans, à la différence des jeunes qui n'ont quasiment rien épargné. Quand on dit jeunes, c'est les moins de 30 ans en l'occurrence.
Oui, oui, et même quand on parle des 20% les plus pauvres, je pense que si on va vers les 10%, il y a même de la désépargne. En fait, il y a des gens qui sont endettés pendant la crise puisqu'ils n'avaient pas complètement leurs revenus, ou alors des étudiants, comme vous le disiez, qui n'avaient pas le petit job d'habitude, etc. Maintenant, on va essayer de la libérer, cette épargne, mais déjà, ce qu'on constate, c'est qu'elle est beaucoup sur des comptes courants. C'est-à-dire elle est en liquide, et ce qui correspond exactement à ce qu'on disait à l'instant, ça a été de l'épargne forcée, c'est-à-dire que les plus riches n'ont pas pu aller au cinéma, au restaurant, au théâtre.
Il n'y a pas de stratégie de placement. Alors, on n'a pas investi son argent en bourse, on n'a pas, acheté de l'immobilier.
Non, il y a une partie qui est allée en bourse, ou en tout cas, on est plutôt sur de l'assurance vie en fait en France, et après elle va en bourse.
Oui.
Et il y a eu un marché immobilier extrêmement dynamique à la sortie du premier confinement. Avec une reprise des crédits immobiliers au départ. Maintenant, c'est en train de se tarir. Mais on a vu une augmentation des prix de l'immobilier, ce qui était très étonnant parce qu'on s'attendait tous... Enfin, si vous voulez, quand vous avez une crise, en général, les prix des actifs ont plutôt tendance à baisser.
Donc l'immobilier a baissé.
Non, l'immobilier a augmenté justement parce que vous avez eu une partie de l'épargne qui a permis...
Oui, on s'attendait à ce que ça baisse, mais ça a augmenté,
voilà,
c'est ce
que
je voulais dire.
Ouais.
Philippe Crevel, il y a une petite parenthèse que je voudrais faire avec vous, parce que je lisais ce que disaient les sociologues sur notre rapport à l'argent, puis après on parlera évidemment de ce que imagine Bercy pour nous faire libérer et dépenser cette épargne. J'ai lu que les Français, historiquement, ont toujours été beaucoup plus fourmis que cigales par rapport aux autres pays européens. Par exemple, le taux d'épargne en France était de 14,3% avant la crise, en 2019, là où il était 10% dans l'Union européenne. Donc on a tendance à plus épargner que les autres.
Avec les Allemands.
J'ai lu que tout ça venait de nos origines paysannes. Beaucoup de Français ont des origines dans le monde agricole où les revenus sont incertains et où il faut mettre de côté pour compenser les mauvaises récoltes. Alors, ça c'était il y a longtemps, mais est-ce qu'il y a un peu de ça aujourd'hui dans le fonctionnement du rapport des Français à l'argent ?
Je ne sais pas si c'est réellement nos origines paysannes qui deviennent de plus en plus lointaines au fur et à mesure donc de la succession des générations. Ce qui est certain, c'est qu'avec les Allemands, les Autrichiens, les Suédois, on figure parmi les meilleurs épargnants au niveau européen. Il y a en France une peur assez importante sur l'avenir.
C'est pas parce qu'on est radin, rassurez-moi.
Non, c'est pas forcément de la radinerie. C'est essentiellement la peur de l'avenir. On a une défiance en France bien connue vis-à-vis des pouvoirs politiques. On a également une très forte crainte, en particulier sur la retraite. Et puis... même sur les questions de santé, d'emploi, de revenus. On a beau avoir un système d'État-providence qui est le plus important au niveau européen, 56% du PIB avant la crise sanitaire, 63 ou 65% pendant la crise sanitaire, ça n'empêche pas les Français de vouloir mettre de l'argent de côté. Et de crise en crise, on constate en fait une augmentation du niveau de l'épargne liquide que chaque Français détient.
Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un aspect psychologique. Hein, on se rattache à l'argent parce que l'argent apaise. Vous le disiez en période de crise, c'est quelque chose qui est conceptualisé aussi par les psys. On en parlera juste après la pause. On marque une première coupure pub et on se retrouve dans quelques secondes avec les questions aussi des auditeurs et des auditrices. À tout de suite. Et on poursuit le débat du Club des Idées. On s'intéresse ce soir, vous l'avez compris, à notre épargne, notre rapport à l'argent et puis aussi la manière dont Bercy, le ministère de l'Économie et des Finances, veut nous inciter à dépenser cette épargne. 100 milliards d'euros sont potentiellement disponibles pour relancer la consommation, pour relancer évidemment la machine économique. On est toujours avec nos invités dans le studio d'Europe Soir. Et je voudrais qu'on commence par la question de cette jeune femme qu'elle nous a posée. Écoutez-la.
Je m'appelle Virginie et j'ai 52 ans. J'ai une question, vont-ils enfin élargir l'assiette pour les donations, que ce soit au niveau des parents ou des grands-parents, pour justement un peu relancer la consommation et augmenter la croissance dès qu'on sera enfin débarrassé de ce virus ?
Voilà, très bonne question. Merci Virginie. C'est une des pistes effectivement qui est sur la table, c'est de faciliter les donations. Alors ce que proposent les députés, c'est simple. Rehausser le plafond d'exonération pour les grands-parents, notamment de 31 800 euros à 100 000 euros et de réduire le délai d'utilisation de l'abattement de 15 à 5 ans, ce qui permettrait aux petits-enfants de dépenser, d'investir, d'utiliser cet argent. Mathieu Plane, est-ce que c'est plausible ça ?
Bah après, c'est un choix politique. Hein. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les montants...
Mais économiquement, ça fonctionne ?
Bah, ça fonctionne.
Quand on favorise les donations, c'est réinjecté dans l'économie ?
Ça favorise surtout les transmissions des gros patrimoines des grands-parents vers les petits-enfants dans ce cas-là.
Mais est-ce que c'est réinjecté vers l'économie ?
Alors le problème, c'est qu'on n'est pas sûr. Par exemple, ça peut être réinjecté dans un projet immobilier qui est d'acheter un appartement qui existe déjà. Donc ça va plutôt faire de l'inflation immobilière que de relancer la consommation dans les parcs de loisirs, dans les restaurants, etc. Donc... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les montants et dans la transmission ne correspondent pas à l'enjeu. C'est-à-dire que vous pouvez déjà transmettre jusqu'à 30 000 euros par grand-parent, par petit-enfant. Donc les deux grands-parents peuvent donner déjà 60 000 euros tous les 15 ans. Là, on est sur des montants d'épargne Covid.
Quand mais
on
là, parle... 200 000 euros, si on reprend l'exemple des deux grands-parents.
C'est 100 000, et pour les parents, c'est 100 000 tous les 15 ans pour
chaque
enfant.
Pour les gens qui ont de l'argent, ça fait beaucoup à la fin
de la donation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des Français peuvent transmettre leur épargne Covid à leurs enfants ou à leurs petits-enfants sans être fiscalisés. Quand on dit les 20% des ménages les plus riches ont épargné 10 000 euros en moyenne, ils peuvent transmettre ces 10 000 euros sans être fiscalisés. Donc je ne crois pas que l'enjeu soit là.
Alors évidemment, ça fait débat hein, politiquement, puisque la gauche notamment dénonce la création d'une société de rentiers et une injustice sociale. Il y a ceux qui seront aidés, dit par exemple le Parti Socialiste, et les autres. Votre avis sur ce point, Anne-Laure Delatte, vous êtes économiste. Est-ce que la donation, ça peut favoriser le déblocage d'abord de l'épargne des Français, et puis la relance de l'économie par le biais de l'investissement.
La question, c'est est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être consommé, ou alors où est-ce que ça va être placé finalement, où est-ce que ça va être dépensé ou placé. Et là, effectivement, on risque en fait d'avoir un transfert des plus riches vers les plus riches, c'est-à-dire, enfin, c'est absolument pas du transfert, quoi, c'est du passage dans la famille, c'est-à-dire que l'argent reste dans les plus hauts revenus, dans les ménages des plus hauts revenus. Est-ce que c'est bon pour l'économie, ça ? En fait, non. Il y a plusieurs implications. La première, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir une inflation sur le prix de l'immobilier qui va en fait accroître encore plus les inégalités. Oui. Parce que si vous n'avez pas d'appartement, ça va être encore plus difficile d'en avoir un. Et après, d'un point de vue macroéconomique, on est en train de comprendre que les inégalités, c'est un vrai problème pour la croissance. En fait, quand vous êtes assez riche ou très riche, vous avez une propension à consommer qui est un peu moins importante que les autres. C'est-à-dire que vous avez une propension à épargner, à garder de l'argent pour vos petits-enfants, etc., sur votre compte. Et en fait, il dort ou alors il n'est pas complètement réinvesti. Et donc, plus vous redistribuez de l'argent vers les plus pauvres, en fait, plus ça relance la croissance économique. C'est des vieilles histoires de Keynes. C'est de la propension à consommer, en réalité.
Alors, autre mesure possible, taxer l'épargne. Alors, c'est absolument radical, mais ça fait partie du débat. Je voudrais votre avis, Philippe Crevel. Vous êtes économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Alors, pour l'instant, soyons clairs, le gouvernement l'exclut. Taxer l'épargne, c'est l'assurance qu'elle sera dépensée ou au contraire, ça forcerait les Français à épargner plus dans une perspective de hausse d'impôts ?
Ce serait une hausse d'impôts.
Ce serait une hausse d'impôts.
Taxer l'épargne. Quelle épargne va-t-on taxer ? Est-ce qu'on va taxer l'épargne longue, l'assurance vie, les plans d'épargne en action, le nouveau plan d'épargne retraite ? A priori, non, parce qu'on souhaite plutôt réorienter l'épargne liquide vers ces produits longs. Est-ce qu'on va donc taxer l'épargne liquide, le livret A ?
Oui.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le livret A, deux livrets A dans la famille, chez les parents, plus ceux des enfants, plus le livret de développement durable, on peut arriver à défiscaliser des sommes qui n'ont rien à voir avec l'épargne populaire. Mais politiquement, à un an d'élection, je n'imagine pas un seul instant le président de la République ou le gouvernement se lancer dans la fiscalité du livret A au-dessus de, par exemple, 15 000 euros. Autre aspect, on va taxer les comptes courants. Dans ces cas-là, ça va être très simple. Les Français vont retirer l'argent du compte courant pour le mettre en cash sous les matelas. On va se transformer en Allemand et on va retirer de l'argent des distributeurs.
Donc,
on va le
mettre... je vous pose la question parce que c'est une question qui nous est beaucoup posée par nos auditeurs et nos auditrices à l'image de ce monsieur. Il s'appelle Yvan.
Je m'appelle Yvan et j'ai 49 ans. Moi, j'ai doublé la somme d'argent que je mets de côté tous les mois. Les restos sont fermés, les bars sont fermés. Et on est enfermé chez nous aussi, donc on a moins envie d'acheter. J'ai entendu dire que le gouvernement envisageait peut-être de taxer encore une fois les classes moyennes. Je pense que c'est clairement au niveau de Bercy qui fait preuve d'une énorme imagination au niveau de la taxation.
Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a la taxation de l'épargne, vous avez en partie répondu, Philippe Crevel. Et puis, Mathieu Plane, il y a l'idée d'une taxe Covid. Ça, on l'entend beaucoup aussi. Est-ce que le gouvernement va pouvoir... Alors évidemment, ce n'est pas très, très populaire à moins d'un an des élections présidentielles, enfin un peu plus d'un an, mais à moins d'un an du début de la campagne présidentielle. Est-ce que ça fait partie des options, ça fait partie des possibles ?
Je crois pas. Alors, en tout cas, Bruno Le Maire l'a écarté de façon assez claire en disant il n'est pas question d'augmenter les impôts pour financer la crise tout de suite, pour une raison simple, c'est qu'on est encore en crise et que l'urgence, vous ne pouvez pas faire des plans de relance où vous mettez 100 milliards sur la table, inciter à des épargnés et augmenter la fiscalité. Donc, la question se posera certainement au second mandat. Alors, au second mandat, peut-être pas second mandat, mais au mandat suivant du prochain ou de la prochaine présidente de la République.
Oui, second mandat si le président de la République...
Effectivement, parce que la question va se poser, c'est la question de la dette et de son financement éventuel. Là, pour le moment, on est dans une situation encore d'urgence. Donc, il n'y a pas de question de financement des mesures et il n'y a pas de question d'augmentation, à mon avis, de la fiscalité sur l'épargne. Au contraire, baisser les donations, la fiscalité sur donations et successions, c'est baisser la fiscalité sur l'épargne, c'est pas l'augmenter.
Il y a un enjeu très fort pour relancer la consommation avec cette cagnotte des 100 milliards d'euros
d'épargne. Oui, c'est le trésor de guerre de cette crise, c'est-à-dire que c'est grand paradoxe. On a un choc économique qui est le plus fort depuis l'après-guerre, et jamais les ménages ont eu autant d'argent sur leur compte en banque. Donc effectivement, mobiliser cette épargne pour relancer l'économie, c'est essentiel.
Bon, on se retrouve dans quelques secondes, on continue d'en parler. On a d'autres questions, tiens, à vous poser de la part de nos auditeurs et auditrices. Et puis, on verra aussi comment utiliser cette épargne, notamment en investissant. On a plein de choses à vous dire à ce propos. À tout de suite. 19h40, on poursuit le débat du Club des Idées. On continue de s'intéresser à notre épargne, à votre épargne. Hein, 100 milliards d'euros disponibles aujourd'hui qui dorment sur les comptes bancaires. Alors évidemment, les Français ne consomment plus pour les raisons que l'on sait. Le confinement, le reconfinement, les couvre-feux aussi avancés à 18h. Sauf que le gouvernement, lui, veut nous inciter à dépenser pour relancer notre économie. Alors, quelle serait la bonne solution, Anne-Laure Delatte, vous êtes économiste et chercheuse au CNRS, pour inciter les Français à dépenser cette épargne ?
Enfin, moi, je ne crois pas qu'il y ait une bonne solution parce qu'on a dit que c'était de l'épargne forcée. C'est essentiellement une concentration sur les plus riches qui n'ont pas pu aller au restaurant, au théâtre, au cinéma et partir en voyage. Donc, il paraît assez irréaliste de penser que cette épargne va être libérée entièrement sur de la consommation. On ne va pas aller trois fois plus au restaurant ou au théâtre, etc. Donc, en fait... Il y a deux façons de mobiliser une épargne. Soit on la consomme.
Depuis un an, ont les moyens de consommer et n'ont pas consommé. Ils ne vont pas faire flamber la carte bleue une fois que l'économie repartira, qu'on pourra vivre comme avant, qu'on pouvait aller au restaurant, voyager, prendre l'avion. Il n'y aura pas de rattrapage. C'est de l'argent perdu.
Il y a une grosse partie d'argent perdu parce que vous avez. En fait, il y a eu vraiment une compression de la consommation sur le premier confinement. Ensuite, on s'est reporté sur des achats en ligne. Donc, il y a déjà eu quand même une certaine consommation, un report de consommation. Et ensuite, vous ne pouvez pas stocker du restaurant ou des voyages, tout simplement. Donc, à partir du moment où on a compris que cette épargne était concentrée sur les plus hauts revenus, il me semble qu'on ne peut pas, espérer libérer entièrement cette consommation. Alors, il y a des façons de le faire. Et il faut probablement quand même réfléchir à des incitations pour que cet argent aille vers des secteurs qui sont compatibles avec une transition écologique, etc. C'est-à-dire que, par exemple, en 2008, On s'en souvient probablement, on avait eu plein de plans pour acheter des automobiles, parce que la France est un gros producteur. Là, on va probablement essayer de faire un petit peu différemment, parce qu'on essaye de faire de la croissance verte, etc. Alors, soit vous libérez la consommation, soit vous incitez les Français qui vont garder cette épargne sur des plans d'épargne à financer de l'investissement.
Alors, justement, c'est la question que j'allais poser à Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Est-ce qu'on peut mobiliser cette épargne pour la flécher en faveur des TPE et des PME qui ont besoin de fonds propres? Voilà, est-ce qu'il existe des avantages fiscaux pour le faire?
C'est nécessaire.
C'est nécessaire.
Les entreprises françaises se finance essentiellement par l'endettement, par crédit bancaire. C'est plus de deux tiers du financement des entreprises qui s'effectue par crédit bancaire. Aujourd'hui, c'est vrai que les taux d'intérêt sont faibles, mais c'est quand même quelque chose qui les fragilise, parce que s'il y a un aléa de conjoncture, quand la demande n'est plus là, il faut quand même rembourser les prêts. Il faut donc essayer de réorienter vers les fonds propres, vers le financement marché par action. Il y a aujourd'hui plusieurs outils qui existent, que ce soit donc avec le plan d'épargne en action, qui est une enveloppe fiscale extrêmement attractive, car en fait, au bout de 4 ans, il y a simplement les prélèvements sociaux, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, que ce soit sur les intérêts, enfin sur les dividendes, ou que ce soit sur les plus-values. Autre outil, le plan d'épargne retraite, qui a été créé par la loi Pacte, et donc ce produit retraite qui permet de constituer une épargne en vue de la retraite, avec sortie en rente ou sortie en capital, logiquement, permet de flécher l'épargne vers les entreprises. Et puis, il y a les unités de compte, des contrats d'assurance vie, qui est aujourd'hui un des supports les plus importants pour l'épargne, on va dire, action.
Mais est-ce que ça, les Français sont prêts à le faire, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE? Parce que c'est vrai qu'il y a une défiance aujourd'hui vis-à-vis des acteurs économiques, il y a une incertitude, il n'y a pas de confiance. La confiance, on sait que c'est le moteur de l'économie. Est-ce que les Français seront prêts demain à investir dans des TPE, des PME, investir leur épargne?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que d'abord, il y a une histoire quand même de confiance, de projection dans l'avenir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut craindre, c'est que cette épargne se transforme ce qu'on appelle en épargne de précaution. C'est-à-dire qu'on met de l'argent de côté pour des lendemains plus difficiles. C'est-à-dire risque de perdre son boulot, des réductions de primes ou de salaires, les enfants qui ont du mal justement à trouver un travail. Donc tout ça fait que vous avez tendance à thésauriser, à mettre de l'argent de côté pour des années difficiles. Donc la première chose pour faire qu'on ait une des épargnes, c'est faire que l'économie reparte et que le chômage n'augmente pas. Oui. C'est quand même très important. Donc, ce n'est pas juste cibler les choses d'épargne, mais c'est faire une politique qui permette d'avoir un rebond fort de l'activité et une baisse du chômage.
Quand notamment. Vous dites une épargne de précaution, ça peut représenter combien à terme une épargne de précaution?
Là, les chiffres qu'on a, c'est qu'on a à peu près 110 milliards sur l'année 2020. Oui. Donc, c'est plus de 4% du PIB, c'est la moitié.
Pour un ménage de classe moyenne supérieure, par exemple, pour être tout à fait concret, ça ferait combien?
Là, on voit, sur la seule année 2020, on est à plus de 10 000 euros. Mis de côté. Si ces 10 000 euros sont réinjectés dans l'économie dans les 6 prochains mois,
donc c'est
en particulier
des gens
dans les secteurs soit de la transition énergétique, mais aussi tous les services de proximité, on aura quelque chose où on aura beaucoup moins de faillites et beaucoup moins de licenciements.
Donc ce sont des ménages qui parviennent, bon an, mal an, à mettre entre 800 et 1 000 euros de côté
chaque
mois. C'est 1 000
euros par mois. Là, pour
beaucoup
le coup,
quand même. Hein,
c'est beaucoup d'argent.
Ça
veut dire qu'un ménage qui est dans les 20% des ménages les plus aisés, donc c'est quand même un quart de la population, ça représente plus de 6 millions de ménages, donc c'est pas rien. On met 1 000 euros de côté chaque mois depuis le début de la crise. Et donc, si ces 1 000 euros sont injectés dans l'économie locale, parce qu'effectivement, si vous achetez un ordinateur ou un canapé, il y a des fortes probabilités qu'ils soient importés. Par contre, quand vous allez au restaurant, c'est un emploi domestique. C'est un emploi
ça rapporte
en
un peu de TVA.
Et ça rapporte en plus de la TVA par la consommation. Donc, vous voyez que l'enjeu est aussi de réfléchir cette épargne dans les secteurs qui ont été les plus touchés, les plus sinistrés, activités culturelles, restauration, loisirs, tous ces secteurs qui ont besoin justement de retrouver de l'activité. Et c'est ce qui permettra d'éviter qu'on ait un scénario de faillite terrible.
Bon, ça veut dire que si je vous suis, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Anne-Laure Delatte, il n'y aura pas de retour en arrière. Ces 100 milliards d'euros, perdus pour l'économie, en tout cas, qui ne circuleront plus.
Non, attendez, je pense que Mathieu Plane a raison. Si on arrive à réinjecter une partie dans l'économie locale, ce sera très utile. Maintenant, ce qu'on est en train d'observer avec les données qui viennent d'arriver, c'est que une grosse partie a été placée sur de l'assurance vie sur des actions en bourse. Et en fait, on est en train d'observer une petite fuite des capitaux, dans le sens où, finalement, si vous voulez vraiment investir en bourse, c'est beaucoup plus rentable aux États-Unis et en Asie qu'en Europe. On a été plus touchés par la crise. Et donc, si vous avez un portefeuille de placement aujourd'hui, en réalité, il est plus intéressant et votre fonds d'investissement va vous inciter à aller davantage vers les États-Unis ou l'Asie que l'Europe. Donc, tout ça, c'est un savant mélange. Je ne sais pas si les ménages ont vraiment épargné 1 000 euros par mois ou si 3% des ménages français ont en fait épargné beaucoup plus, vous voyez.
Alors, je voudrais qu'on termine par l'intervention de Florence. Florence qui, elle, a l'intention, ben vous allez l'entendre, hein, de rattraper le temps perdu une fois que tout sera, ça sera derrière nous.
Je m'appelle Florence, j'ai 59 ans. J'ai plus épargné cette année que les années précédentes. Mais je me dis que lorsque la vie redeviendra comme avant, on va être amené à la dépenser. Enfin, ce n'est pas dans le but d'épargner. Bon, c'est que ça n'a pas été dépensé, je veux dire, plutôt.
Voilà, cigale plutôt que fourmi. Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. Est-ce que vous avez des études ou est-ce que vous avez des projections sur les secteurs d'activité qui vont profiter à plein de cette dépense des Français une fois que l'économie va repartir et que la consommation va repartir?
Sur la consommation, on sait très bien qu'il y aura un boom un petit peu au début sur tout ce qui est bars, restaurants, sorties, dès qu'on va lever les restrictions. Après, on a bien vu depuis un certain nombre de mois que ce qui est matériel électronique, informatique, connaît un essor important et ça va encore durer avec le télétravail, avec l'équipement de la maison. Et là, ça fait évidemment des importations supplémentaires. Il ne faudrait pas que cette relance nourrisse exclusivement les importations, sachant que la France a un déficit extrêmement important et qui s'est accru l'année dernière. Donc là, il faut faire attention, évidemment, où part la consommation.
Mathieu Plane, sur le sujet.
Bah, sur le sujet, ça veut dire que le meilleur moyen aussi de les épargner, c'est de faire en sorte qu'on ait une campagne de vaccination qui fonctionne. Hein. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on rouvre les secteurs qui, aujourd'hui, sont à l'arrêt. Parce que si vous incitez à consommer, effectivement, des matériels, des produits manufacturés importés, ça a très peu d'effet sur l'activité française. Donc, l'enjeu essentiel, c'est de rouvrir le plus vite possible et faire en sorte qu'on arrive assez vite à l'immunité collective. Donc, il y a une vraie course contre la montre au niveau du vaccin et c'est quand même le meilleur moyen pour redonner de la confiance, faire que l'activité reparte et qu'il y ait potentiellement des épargnes, notamment les secteurs qui sont les plus touchés.
Vous avez beaucoup épargné, vous, depuis un an ?
Bah, j'ai pas tant l'impression.
Mais... Et vous ?
Non. Pourtant.
Bon, on est l'exception qui confirme la règle.
En revanche, j'irai boire des bières et j'irai au restaurant, et ça, c'est promis. Ouais.
Bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui attendent ça avec beaucoup d'impatience. Merci à tous les trois d'avoir participé au débat du Club des Idées.
Europe 1, Julien Bugier.
19h49, vous restez avec nous dans quelques secondes. Les archives, ce soir, on remontera le temps en 1989, quand Philippe Streff se retrouve paralysé après un terrible accident pendant les essais au Grand Prix du Brésil. A tout de suite. La suite du Club des Idées d'Europe Soir avec les archives du jour. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors que la saison 2021 de Formule 1 débute dans moins de deux semaines, on a encore tous en tête le terrible accident de Romain Grosjean, sorti quasiment indemne de sa voiture en flammes. Eh bien ce soir, vous allez, grâce aux archives, nous raconter un autre drame, un autre accident qui a changé l'histoire de la Formule 1, celui de Philippe Streff.
Oui, nous sommes le 15 mars 1989 sur le circuit de Jacarepaguá près de Rio. C'est là qu'ont lieu des essais d'avant-saison pour tester de nouveaux pneumatiques. Au volant de son AGS, c'est une petite écurie française, Philippe Streff accélère.
Ouais, c'est une caméra amateur qui a filmé la scène. Le crash est terrible.
Oui, victime d'une rupture de suspension, le bolide s'est littéralement envolé à plus de 200 km/h, transperçant les maigres filets de sécurité et faisant plusieurs tonneaux avant de se stabiliser. Philippe Streff est conscient, mais il ne peut plus bouger. Le kiné, Pierre Balédier, est l'une des rares personnes sur place.
Ben moi, sur le coup, je suis allé voir la voiture. Il est certain que ça fait peur lorsqu'on voit l'état de la voiture après l'accident. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bien entendu, il y avait pratiquement pas de témoins. Lui ne peut pas dire ce qui s'est passé. Il est conscient parfaitement de ce qui passe autour de lui, mais pas tellement conscient en fait de la gravité de son état.
Oui, les secours brésiliens sont totalement dépassés par les événements. Ils vont faire tout ce qu'il ne faut pas faire dans ces circonstances.
En effet, enlever le casque du pilote, encore incarcéré dans la voiture, ce qui fragilise un peu plus le crâne et les cervicales. Lui mettre une simple minerve et le placer à la hâte sur un vulgaire brancard. L'ambulance met 30 interminables minutes à arriver. Et puis l'hélicoptère, qui doit le conduire vers l'hôpital, se perd en route car le pilote n'est pas de la région. Il atterrit sur une plage et c'est dans une simple ambulance au milieu des nids de poules des routes brésiliennes que Philippe Streff est finalement acheminé vers l'hôpital. Diagnostic, moelle épinière touchée, double luxation de la colonne et écrasement d'une vertèbre. Son épouse, Renée, est bouleversée mais aussi est légitimement très en colère.
Qu'il ne récupère pas toute la mobilité de ses membres et tous ses moyens, ça sera de la faute de l'organisation déficiente de ce Grand Prix. Je ne sais pas à quel niveau, mais je veux le dire et je veux que ce soit dit parce que ça pourra servir à beaucoup d'autres.
Il faut ce terrible accident pour que le monde de la Formule 1 prenne enfin conscience des lacunes en matière de sécurité.
Oui, parce que 3 ans plus tôt au Castellet, Helio De Angelis avait perdu la vie, mais rien n'avait changé, ni les circuits, ni les protections pour les pilotes, malgré des voitures de plus en plus rapides. Alors René Streff et Alain Prost, qui sera couronné champion du monde quelques mois plus tard, eh bien ils montent au créneau et ils exigent de véritables antennes médicales compétentes sur les Grands Prix.
Avoir, si possible, un bloc opératoire, des chirurgiens hyper compétents pour certains types d'accidents, dont par exemple celui de Philippe au niveau de la colonne vertébrale, des choses comme ça. Ça comprendrait une dizaine ou une quinzaine de personnes capables d'opérer pratiquement dans la demi-heure qui suit un accidenté sur place, et ça sur tous les Grands Prix. Je crois que c'est simplement une question d'organisation et de volonté de la part de l'instance fédérale, des constructeurs et bien entendu des pilotes.
Oui, Philippe Streff est finalement rapatrié et entame une longue convalescence.
Oui, et 2 mois après l'accident, Dominique Bressot lui rend visite pour Europe 1, une visite émouvante et pleine d'espoir.
J'ai passé 2 mois très difficiles, puisque j'ai fait des arrêts cardiaques et surtout, j'ai une infection des poumons. Bon, les choses se sont arrangées rapidement. Et heureusement, j'ai retrouvé la mobilité des membres supérieurs. Je suis dans le centre de rééducation des invalides. Et je pense que ça va être très long, mais les symptômes sont assez encourageants.
Philippe, quel foutu métier quand même.
Hein, oui, mais c'est une passion. Hein. Il faut assumer les risques. Hein.
Hélas, quelques semaines plus tard, on apprendra que Philippe Streff restera paralysé à vie des membres inférieurs. Ce pilote de grand talent s'engagera dans la lutte pour la prévention et la sécurité routière, mais aussi pour la reconnaissance des personnes handicapées dans la vie de tous les jours. Il organisera aussi des courses de cartes, dont une restée célèbre pour avoir abrité le dernier duel volant en main entre Alain Prost et Ayrton Senna, le mythique pilote brésilien mort en 1994 après avoir percuté un mur lors du Grand Prix de San Marin.
Merci Jean-François Pérez pour ces archives et ce récit. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, restez avec nous. Dans un instant, Julien Pierce pour le rappel de l'info. Et puis la musique avec Émilie Mazoyer. Émission exceptionnelle qui va durer d'ailleurs toute la semaine. On va retrouver grâce à vous, ma chère Émilie, un peu la vie d'avant, les concerts, les lives, la musique. Ça s'appelle Back to Live, n'est-ce pas ?
Oui, Julien, on se réjouit. C'est la première soirée Back to Live. Il y en aura toute la semaine. Donc, ce sont des concerts enregistrés ici à Europe 1 au studio Belmar. Parce que 1 an sans concert, c'était trop. On n'en pouvait plus. Et cette semaine spéciale concert, on la démarre avec Benabar, numéro 1 des ventes, avec son nouvel album Indocile Heureux. Avec Yael, l'artiste électro-pop que le monde entier nous envie. Il y aura aussi Yarol, guitare héros français. Et puis ma petite découverte, Mauvais Oeil. C'est un duo qui plaît autant aux fans d'Erita Mitsuko qu'aux fans de Britney Spears qu'aux fans de Rachid Taha. Oui, c'est possible et ce sera tout à l'heure dans la première édition de Back to Live.
Bon, bah ça marche. On te retrouve dans quelques secondes, Émilie. Merci pour cette belle initiative et ses concerts toute la semaine. A tout de suite. Merci de votre fidélité. On se retrouve, nous, demain, même lieu, même heure, au micro d'Europe 1, à 18h.